Version originale, Aligre FM, culture, société, création. Version originale, Patrick, Léon, Émile.
Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue à l'antenne d'Aligre FM pour une nouvelle édition de Version originale, comme chaque samedi à 19h. Le musée de l'histoire de l'immigration, Palais de la Porte Dorée, présente une exposition qui recadre les clichés. Banlieue chérie. Banlieue chérie se tient jusqu'au 17 août, banlieue chérie au pluriel. Cette exposition donc interroge les innombrables représentations dont les banlieues ont fait l'objet depuis pas mal de temps, donc à travers le temps. L'exposition Banlieue chérie donne à voir la vitalité de ces territoires où vivent des millions de personnes issues ou non de l'immigration. Plus de 200 œuvres, peintures, sculptures, photographies, films, dessins, installations, musique, sont réunies par les trois commissaires, Susanna Gallego-Cuesta, Aurélia Maclouf et Émilie Garneau, enfin Aletea, alias Émilie Garneau, qui est mon invitée ce soir. Bonsoir, bienvenue à l'antenne d'Aligre FM, Aletea.
Bonsoir.
Vous êtes donc artiste plasticienne vous-même, issue de l'art urbain, donc on parlera un petit peu de ce que c'est que l'art urbain vers la fin de l'émission. Donc je le disais, avec Aurélia Maclouf et Susanna Gallego-Cuesta, également Chloé Dupont. Donc vous êtes donc commissaire de l'exposition Banlieue chérie. Alors, l'exposition, donc, avant donc, de survoler avec vous le parcours, hein, qui est quand même divisé en trois mouvements, on va dire, l'exposition s'ouvre sur sur la définition de la banlieue. On peut lire à l'entrée de l'exposition, la banlieue, c'est le territoire qui entoure une ville. Plus la ville est grande, plus la banlieue est étendue. Cette exposition donc, raconte comment la banlieue a été regardée et transformée au fil du temps. Parce que, donc, poursuit le texte, la banlieue n'est pas au centre. Parce qu'elle n'est pas au centre, donc, elle est souvent mal connue. Et quand on va dans le dossier de presse, que je lis bien évidemment pour préparer l'émission, il est précisé que la langue française, contrairement à d'autres, semble installer avec le mot banlieue une relation sociale, politique entre le centre et la périphérie. Comment est-ce que vous voyez ça avant qu'on parle un peu plus de l'exposition ?
Oui, ben en effet, déjà ce mot, il est le mot banlieue, il n'existe qu'en français. C'est un mot qui n'existe pas en anglais. On va parler de suburb, on va plutôt parler justement de la notion de périphérie, alors que ce mot banlieue, lui, il prend sa source au Moyen-Âge. C'est les lieux qui sont à une lieue du banc, c'est-à-dire aux limites de la ville. Et en fait, c'est cette histoire française en fait qui s'étire là-dedans, puisque toutes ces villes qui étaient autour de Paris et des grandes villes en fait avaient déjà toute une histoire comme ça entre le centre et la périphérie, qui étaient par exemple des lieux nourriciers en fait des centres. Je pense par exemple à Saint-Denis ou à Corbeil-Essonne, qui ont toujours nourri Paris. Et donc il y a
nourrir au sens
physique, concret, de des choses, amener du pain, du vin, du maraîchage aussi. Et voilà, donc il y a déjà tout un rapport intime en fait entre ces lieux nourriciers et le centre, qui va prendre évidemment une ampleur au 19e siècle. C'est là où nous on commence un peu l'exposition, puisque il va y avoir avec la révolution industrielle, beaucoup plus de gens, des ouvriers, etc., qui vont venir s'installer comme ça autour des grandes villes.
Et c'est intéressant aussi, puisque dans j'ai découvert ça en visitant l'exposition, que dans un texte intitulé La banlieue, Émile Zola donc, parle de l'espace qui ceinture Paris. C'est une zone sinistre et boueuse. En fait, c'est un mot qui vient du militaire, peut lire, on apprend ça. C'est une sorte de tampon de protection de la ville. Quand on dit la zone maintenant, qui est, c'est un terme qui est devenu très péjoratif, hein, c'est un peu un endroit perdu, complètement paumé, mais il y a une origine militaire finalement, et ça j'ai appris en faisant l'expo.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire que c'est cette fameuse lieu, quoi, après le banc, c'est-à-dire les fortifications de la ville en fait, et que en fait ces endroits, pendant une lieue, étaient encore sous protection de la ville. Et donc ça vient en effet d'un rapport militaire, d'un rapport de protection, et ensuite, oui, une zone comme ça, tampon, mais dans laquelle il y a toujours eu des gens qui venaient y vivre, et vivent dans cette zone un peu de transit, quoi.
Alors l'exposition en elle-même, on va dire qu'il y a ce parcours est en trois grands mouvements, entre trois grandes parties, banlieue Douce-Amère, banlieue engagée et banlieue centrale. Donc, alors, on prendra le temps, bien sûr, de rester sur quelques créations, sur quelques parties de l'exposition. Mais en tout cas, l'exposition donc, propose une histoire sensible. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'au début de l'exposition, je suis surpris de tomber sur Jean Monnet. La peinture de Monnet. C'est vrai je pense que, bien sûr, quand on comprend où certains peintres impressionnistes ont peint, effectivement, on voit très bien la place que l'œuvre de Monnet peut occuper dans une exposition comme ça, mais on ne s'attend pas du tout. Est-ce que ça, vous y avez pensé ?
Oui, on y a pensé, puis même on était, ça nous faisait un peu rigoler, et puis ça nous faisait plaisir de pouvoir aussi faire en fait ces espèces de grands écarts. Parce que pour nous, c'est vrai, quand on a travaillé sur ces banlieues qui sont donc nombreuses, qui à la fois dans le temps et dans l'espace, c'est-à-dire qu'il y a eu plein de formes différentes et plein d'histoires différentes en fait autour des villes. Et donc à des moments, elles sont campagnes, à d'autres moments, elles sont zones, à d'autres moments, elles sont maraîchères. Enfin voilà, il y a aussi des histoires qui vont être très, très mouvantes en fait. Et se faire plaisir déjà en montrant un Monnet en emblème de banlieue, nous, ça nous est ça nous est plaisir. C'était déjà le premier recadrage de clichés, puisque on a construit vraiment ce commissariat pour essayer de transformer les regards et de remplacer le regard médiatique avec les images médiatiques des 20 dernières années par de la vraie histoire et les gens qui y sont vraiment, en fait. Et donc, en effet, il y a Monsieur Monnet, effet, qui venait peindre la campagne à l'époque à Asnières, ouais.
Et plus largement, quand on voit ce projet d'exposition qui est quand même d'envergure, dites-nous comment est né le projet, comment ça a pris, quel temps ça a mis pour aboutir, et qu'est-ce qui avait dû vous convaincre ou pas pour faire une telle exposition?
Ouais. Déjà, c'est une volonté de Constance Rivière, donc la directrice du Palais de la Porte Dorée, qui a commandé en fait une expo banlieue à Susana Gallego-Cuesta, qui est commissaire d'expo et surtout elle est comment on dit déjà elle est conservatrice en chef du patrimoine et Susana elle a voulu s'entourer d'autres regards en fait. Elle s'est dit c'est super, mais la banlieue c'est tellement vaste, tellement multiculturel, multi-regard, qu'elle se sentait pas de le faire toute seule, et parce qu'elle estimait que le résultat ne serait pas assez fin en fait. Donc elle s'entourait de Auria Maclouf et de moi. Auria Maclouf qui est un peu plus jeune aussi et qui elle est critique d'art, et moi qui suis artiste. Donc c'est vraiment trois parcours très différents deux banlieusardes et une étrangère, parce que Susana est espagnole. donc elle est émigrée, Susana. Et donc on a fait comme ça, c'est vraiment les croisements en fait déjà de ces regards, de ces vies différentes, qui a permis de monter vraiment un premier jet, avec plein de facettes différentes en fait.
Et par exemple, quand je reviens sur les premiers pas de l'exposition, quand on met en relation Monnet M. Sierdi, c'est comme ça qu'on prononce cette affaire, M. Sierdi. Justement, dans quelle mesure ces deux créations qui sont très différentes? Je rappelle que Mohamed M. Sierdi, c'est vidéaste, hein, c'est différent.
Oui.
Quand on met en relation donc deux types de créations si différentes, qu'est-ce qui vous a paru pertinent de mettre en relation ces deux formes artistiques?
Oui, bah en fait, déjà, nous, on a pris assez vite le parti de l'art, en fait, pour raconter la banlieue. C'est-à-dire que de se reposer plutôt sur l'art que sur l'histoire ou sur la documentation. Parce qu'on avait envie de quelque chose qui soit intime, qui puisse être émotionnel. Et on pense que l'art permet tout ça. Il permet aussi, justement, des grands écarts. Et ces rapports qu'on a pu faire qui sont non chronologiques, puisqu'en effet, on passe deux siècles entre Monet, Ryan et Absidi. On le fait plusieurs fois dans l'exposition de mettre comme ça en vis-à-vis des œuvres qui sont pas du tout de la même époque et qui vont permettre comme ça de sentir justement ces banlieues qui ont beaucoup évolué, beaucoup changé. D'en voir aussi les liens qui continuent d'exister. Par exemple, là, on a Monet avec cette vue d'Asnières très bucolique quand même, avec le lac. Et le film de Ryan Absidi se passe au même endroit de 200 ans plus tard. Et voilà, il y a des grands ensembles qui vont remplacer les zones campagnardes. Mais en même temps, ces immeubles ont tous des noms de fleurs, un peu pour rappeler ce passé bucolique. Et on a ces jeunes et ces habitants qui parlent de comment est-ce qu'ils vivent dans ce quartier. Enfin, voilà, et c'est... Nous, on avait envie de provoquer justement ces rencontres en fait artistiques entre Monet et Ryan, par exemple.
Et quand vous faites le choix de Mme Sierdi, donc c'est un artiste que, en tout cas, l'une de vous trois, ou même peut-être tous les trois, vous connaissiez avant, qu'est-ce qui vous a attiré dans sa création pour lui donner cette place dans l'exposition? Enfin, une façon de nous faire découvrir davantage cet artiste que moi, par exemple, je ne connaissais pas avant l'exposition.
Il y avait aussi l'idée déjà de présenter pas mal d'artistes jeunes aussi. Ça, c'est un truc qu'on avait. Envie de montrer donc des artistes qui sont issus des banlieues, qui sont jeunes, qui sont dans ces sujets justement de comment est-ce qu'on crée une nouvelle identité et des identités en banlieue. En effet, ça c'est Auria Maclouf qui a proposé le travail de Ryan qui m'a tout de suite touchée parce que voilà on est dans quelque chose d'à la fois drôle et très il y a un côté presque nostalgique du futur un peu dans son travail qui évoque cet attachement en fait que on retrouve souvent pour les quartiers. Les gens sont très attachés à leur quartier, sont très attachés à leur lieu de vie, à ces lieux qui sont vus de l'extérieur d'une manière très péjorative. Mais qui de l'intérieur sont en fait vécus comme des lieux de vie pleins de d'émotions et d'amour en fait. C'était un peu je pense que Ryan il montre plein de références sur cette jeunesse, voilà.
À l'ETA, il y a une partie dans l'exposition, au cœur de l'exo même, vous placez donc ce qu'on appelle un bureau de presse. Donc, il est confié à des collectifs et des associations. Je n'ai pas très bien compris son rôle, parce qu'en même temps, c'est intéressant, puisque on sait quel traitement les médias font des banlieues, parfois, souvent. Et là, ce bureau de presse, qu'est-ce qu'il a voulu dire exactement?
Ce bureau de presse, c'est un endroit, justement, où on permet... aux gens déjà de se poser parce que ils ont bien marché déjà.
c'est
une première pause dans l'expo de donner en fait un peu de voix à tous ces médias qui ont germé en banlieue. Il y a beaucoup d'associations, beaucoup de collectifs qui vont justement travailler leur représentation. Comment est-ce qu'on parle d'eux? Comment est-ce qu'ils ont envie de parler d'eux eux-mêmes, en fait? Et c'est vrai que c'est en fait un vivier foisonnant que peut-être qu'on a peu l'occasion de voir à quel point est-ce que en fait il y a en banlieue un vrai travail de presse politique, sociale, de réflexion qui est mené par beaucoup de jeunes et par beaucoup de collectifs. Et nous, on avait en fait envie de leur donner voix, voilà, droit de cité et et envie de qu'on puisse se poser, écouter plein de podcasts, lire aussi parce qu'on a mis aussi des fanzines. Voilà, c'est une façon de montrer ce dynamisme qui est assez qui est puissant en fait et qui porte plein de choses, je pense, pour le futur en fait par toutes ces collectifs de presse.
Il y a aussi, donc c'est une partie dont vous êtes chargé, vous, à l'ETA, c'est le studio de musique.
Oui.
On va en parler, mais avant on écoute justement un morceau avec cette playlist. C'est vous qui avez constitué la playlist et donc c'est moi qui ai choisi parmi cette playlist de 80 titres environ, l'un des premiers morceaux.
Culture, société, création, en version originale, Patrick Léon Émile.
C'est le nouveau phénoménal freestyle du visage pâle. Le bateau est de retour. Arthur, c'est parti, ça vient de s'année. Direct, issu de la génération fond qui t'a gêné. Pas de soucis, mais pas de chipi ici. Pas de chichi si tu diras pour te chier dessus. Trop de blabla, trop de plagiat. Trop de merde sont édictés pour un. Mais c'est comme ça. Connecto, le bénéf, le business. Et c'est pendant qu'on laisse couler que les pédales s'engraissent. Et puis, ça bible de nous, rêve de voir en dessous. Mais ne t'approche pas, Hollande de Bond te fout des coups. De peu bon, si tu respectes pas les règles, mec du béton. Pour finir aux côtés des faibles, ceux qui ne voient le hip-hop qu'avec des samples de pop. Mec, tout cela, je les stoppe. À base de pop, 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 sinister. Fous donc ton gilet pare-balles. À base de pop, 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 pop. Mais pour le hip-hop, je développe la scène. C'est de la bombe, bébé. Et si t'as le pédigré, ça s'en connaît au début. C'est de la bombe, bébé.
Ici, c'est
Sandy, Sandy, fond, fond du flèche. Sandy, Sandy, fond, fond du flèche.
Dans l'arène, le suprême, la crème, la cerise sur le gâteau. Tu connais le deal, négro. Pas besoin que j'en fasse trop. C'est moi la voix qui fout ta tessie dans tous ces états.
Tu kiffes pas, Nico Mouk viendra à toi. Voilà pourquoi j'ai pas le droit. J'lâche pas 9-3.
J'suis le droit avec un fond spécial.
Ça, c'est le sinister.
C'est le sinister.
C'est le sinister.
C'est le sinister.
Faut donc ton gilet pare-balles à base de pop, 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 pop. Mais pour le hip-hop, je développe la scène. C'est de la bombe, bébé. Et si t'as le pédigré, ça se reconnaît au débit.
Eh oh, ça se reconnaît au débit, baby.
C'est la génération funky taquini.
Pas de chichi, pas de chippy.
Pas de chippy.
Si tu dérapes, on te chie dessus.
C'est de la bombe, bébé.
Sense Alani Style, on peut même dire que c'est un classique, d'NTM, en compagnie d'Aletea, qui est donc l'une des commissaires de l'exposition Banlieue, qui se tient donc au Palais de la Porte Dorée, musée de l'histoire de l'immigration, jusqu'au 17 août. Banlieue chérie, c'est le nom de cette exposition. Donc, je le disais, Aletea, vous êtes occupé de ce studio qui est un peu vers la fin de l'exposition. On peut quand même y revenir, hein, mais...
Oui. Là, on a fait un peu de monnaie à...
Absolument. Et donc, c'est vous qui avez choisi. Donc, c'est une playlist à peu près d'une centaine de titres. On n'est pas loin de 200 titres. Parlez-nous un peu de la constitution de cette playlist. Quel est son rôle au sein de l'exposition?
Oui, ben en fait, il y avait cette partie justement musicale qui nous paraissait essentielle pour parler des banlieues, puisque il y a énormément de musique qui est créée en banlieue ou qui en parle. Et donc à la fin de l'expo, on a créé un lieu vraiment où on peut s'arrêter, s'allonger, chiller même, en écoutant donc une playlist qui passe en random, mais qu'on peut aussi emmener. Après, il y a un QR code et on peut partir avec pour l'écouter chez soi. Et donc ça a été fait en partenariat avec le CNM. Le Centre National de la Musique, qui nous a donc accompagnés sur ce projet, à la fois aussi pour la création de la playlist, mais aussi pour la création du lieu dans l'expo. Et donc voilà, on a fait un commissariat musical. Alors c'était une première pour moi, mais voilà, moi j'avais vraiment envie de évidemment qu'il y a le hip hop, parce que le hip hop a évidemment des racines profondes en banlieue, mais voilà, moi j'ai tenu à ce qu'il y ait aussi de l'électro, des variétés françaises aussi.
Jean Ferrat.
Ouais.
Mistinguette, il m'a vu.
Mistinguette. Jean
Gabin, quand on se promène au bord de l'eau. Ouais. Donc, toute une liste de morceaux qui évoquent la banlieue sous différents aspects.
Ouais, voilà. Le rock aussi avec Trust. Enfin, bon, c'est des... Voilà, il y a eu quand même plein de sons qui ont été créés en banlieue et qui ont été même parfois... pour des générations, des vrais emblèmes, quoi. Ouais. Donc, c'était important de retracer ça et voilà, puis de se proposer un peu ce moment où on est en fin d'expo et puis on peut y repenser, écouter du son. Voilà, ça nous plaisait d'avoir un lieu comme ça, un peu cool, en fait, en fin d'expo.
Et ça, c'est une partie que vous avez un peu gérée seule.
Oui, un peu, parce que... Bah oui, on s'est réparti aussi pas mal de tâches. Enfin, on s'est réparti certaines choses, parce que le commissariat de Banlieue Chérie, il est quand même avant tout collectif. C'est quand même ça aussi, je pense, la force de ce commissariat. C'est que on était déjà trois commissaires, plus Chloé Dupont, qui est la commissaire maison du palais sur cette expo. On avait aussi un comité scientifique. Et donc, c'est le produit un peu de tous ces échanges aussi. Voilà, et de tout ce que tout le monde a pu amener, a pu nourrir, en fait, pour l'expo. Et donc, voilà, par exemple, l'espace presse, c'est plutôt Auria et Susanna qui s'en sont occupées. Et moi, je me suis occupée de la musique, parce que aussi, c'est des questions de goût et
d'affinité.
Mmh. Ouais. Et j'ai découvert plein de trucs, parce que voilà, c'est assez génial, quoi. J'ai découvert plein d'artistes, des sons. Et puis, y avait un côté très nostalgique aussi à réécouter tout ça. Ah. Par exemple, je pense à Carte de séjour, par exemple. Mmh. Des sons comme ça. J'étais vraiment contente de pouvoir les mettre dans la playlist. Ouais.
Et c'est vrai que l'exposition en elle-même évoque... Alors là, vous avez parlé donc de la forme musicale à l'ETA, mais il y a aussi, quand on parcourt l'exposition, il y a des... ça rappelle... quand on parle de banlieue aujourd'hui, on voit donc des stigmatisations très directes, des images de violence, effectivement, qui sont plutôt négatives. Mais l'exposition, effectivement, permet de préciser que c'est beaucoup plus large que ça, déjà. C'est beaucoup plus vaste que ça, beaucoup plus riche que ça.
Oui.
Et ce qui m'a frappé, c'est de voir dans le public une grande variété d'âges. Et disons-le clairement, une grande variété de couleurs de peau aussi.
Oui.
Ça, c'est très net.
Ouais, ça, c'est super. On est vraiment trop contentes, parce que là, on a pratiquement 50% de jeunes, en fait, aux billetteries. Donc, comme il y a des billets moins de 26 ans, on peut savoir. Donc, on sait que le public est quand même pratiquement à 50% à moins de 26 ans. Donc ça, on est vraiment trop heureuse d'avoir la jeunesse qui vienne voir cette expo. Et je crois qu'on est à 70 000 visiteurs, je crois. Donc c'est super. On a vraiment un engouement pour l'expo. Et en effet, parce que parfois, on fait les petites souris, on reste dans l'expo pour voir. Et en effet, voilà, c'est vrai qu'il y a plein de jeunes, il y a plein de gens de toutes les couleurs qui viennent de partout, plein de gens qui viennent de banlieue la voir. Et ça, c'est vraiment... c'est trop génial, on est trop contente.
Alors, on ne peut pas ne pas évoquer, bien sûr, la politique quand il s'agit donc de ces territoires-là. Il y a une partie, donc, une des thématiques de l'exposition, ce sont donc les banlieues rouges. Et là, donc, l'artiste qui est très en avant sur cette partie-là, donc, c'est Boris Tastitsky, donc, qui est peintre et dessinateur, fait partie donc d'un courant réalisme socialiste. en quoi sa, comment dire, sa création est-elle pertinente pour évoquer donc cet aspect de la banlieue en mutation, par exemple, quand vous faites le choix de cet artiste?
Ben, on fait, ouais, on fait le choix, ben, déjà des dessins, parce que ouais, ils sont superbes de voir, puis de pouvoir voir la différence en fait entre aujourd'hui ces dessins qui voilà. Évoque un moment, donc on parce qu'en effet il y a un des axes de l'expo, c'est aussi cette mutation permanente qu'on a en banlieue, qui est un endroit qui est tout le temps en construction, en rénovation, en transformation, et qui du coup peut faire penser que justement les choses se délitent. Alors, ça commence comme ça, hein, d'ailleurs, avec Jean Gabin qui est perdu à Sarcelles, qui ne retrouve plus sa maison.
à l'entrée de l'exposition.
Voilà, à l'entrée de l'exposition. Et donc, oui, on avait vraiment envie de parler de ces transformations et de ce... Parce que ça fait partie, je pense, un peu de l'ADN des gens qui y vivent. C'est que ils vivent dans un endroit qui est sans cesse transformé. Et qui est sans cesse, alors que quand on vit par exemple au centre de Paris ou au centre de Lyon, l'urbanisme ne change pas de manière aussi profonde qu'en banlieue. En banlieue, on a pu faire sauter des tours, on a pu recréer des quartiers entiers, transformer des champs en ville. Enfin, donc il y a une violence et une puissance de l'urbanisme qu'on voit pas quand on est à l'intérieur d'une ville, en fait. Et je pense que ça, c'est un des traits aussi de la banlieue, et du coup de quand on y habite et que tout d'un coup tout est transformé, ou bien qu'il faut être logé parce que on va détruire l'endroit où tu as vécu depuis 30 ans. Et que ça a été fait un peu de manière violente, en fait, tout ça, dans les années 60, 70, 80. Je pense qu'aujourd'hui, il y a peut-être un peu plus d'accompagnement sur comment cet urbanisme est fait dans les quartiers. Mais on avait vachement envie d'en parler, parce que il y a un truc de nostalgie par rapport à tout ça qui est fort et qui fait partie de cette histoire, quoi, de la banlieue.
Et c'est un peu aussi le rôle d'un artiste comme Mathieu Pernaud, le photographe justement, ouais, qui parle de ces grands ensembles.
Ouais, bien sûr. Et puis qui a justement pris en photo ces explosions hyper violentes.
Alors il s'agit donc d'explosions destruction d'immeubles.
Destruction d'immeubles, ouais. Et il y a aussi les films d'Anne-Laure Boyer qui en parlent, puisque il y a l'installation au milieu de l'exposition, une grosse installation qui s'appelle L'Appartement, et qui, expose comme un appartement témoin
du mobilier.
Donc on peut s'asseoir, on peut jouer aux cartes, on peut. Voilà. Et en fait, c'est une installation qu'elle a créée à partir en fait d'objets qui ont été confiés par des gens qui déménageaient. C'est-à-dire qu'elle s'était installée dans un immeuble qui allait être détruit à Floirac, donc en banlieue de Bordeaux. Et elle a commencé à prendre en photo les gens, les filmer aussi pendant leur déménagement, et à récupérer comme ça plein d'objets qui lui étaient confiés pendant les déménagements. Et elle en a fait comme ça cette installation interactive qui parle de ça, de comment est-ce que il faut partir d'un appart dans lequel on a été depuis 40 ans, dans lequel on a élevé des enfants. Et donc, il y a toutes ces photos, ces petits objets, etc. Et ensuite, dans l'expo, donc à côté de la photo de Mathieu Pernaud avec la barre qui explose, il y a aussi les films, en fait, qu'elle a fait sur la destruction de cet immeuble à Floirac, qui est, et on voit comme ça les machines grignoter... l'immeuble.
Justement, l'ETA, c'est intéressant de s'arrêter parce qu'il y a, alors bien sûr, il y a l'aspect artistique, l'aspect politique, même si donc, dans l'exposition, tout ça est traité sur un plan artistique, mais ce n'est pas dans un but d'embellir et de façon béate, bien évidemment. Alors, il y a aussi la présence de beaucoup de photographies, d'objets, de personnes, véritables des traces de vie. Comment est-ce que vous les avez rassemblées justement ? On parlait de cet appartement, mais on sent qu'il n'y a pas que des idées abstraites dans cette exposition,
il
y a des personnes, il y a des traces de vie,
dans
des objets, des photos, des cartes.
Parlez-nous
de cet aspect-là, justement.
Ça, c'est un des trucs auxquels on tenait beaucoup, c'est que d'être dans l'intimité, c'est-à-dire de pas parler de la banlieue d'une manière abstraite, comme un lieu mystique, mais de montrer que en fait c'est déjà un endroit où il y a plein de gens qui vivent, des familles qui grandissent et qu'avant tout c'est un lieu déjà familial, d'histoire, de vie, d'amour, de
Aligre FM 93.1.
Finalement, on avait envie de montrer cette banalité, un peu en réaction à la médiatisation de la violence.
Qui dramatise toujours.
Voilà, qui dramatise. Mais en réalité, je vis en banlieue. La réalité, c'est que on y vit, fait, et que les 99% du temps, il ne se passe que des choses banales et douces et cool, et de vie normale, fait. Donc, on avait envie de travailler cet axe. Et au contraire, pouvoir montrer des visages. On a pas mal de photos de famille aussi, parce que c'est...
De diverses origines,
je
des
pense,
personnes.
Parce qu'il y a aussi un truc qui, moi, me plaît beaucoup en banlieue, c'est que c'est la terre, c'est aussi l'accueil. Puisque, en réalité, l'immigration, souvent, elle est accueillie en banlieue. Par exemple, en Essonne, là où moi je vis, on est le département qui accueille le plus de migrants, puisque les gens vont être logés d'abord en banlieue. Et donc, c'est aussi une terre d'accueil, la banlieue. Et donc, c'est là que les gens vont reprendre racine, refaire famille, refaire communauté, s'adapter à cette nouvelle culture. Vivre leur... après ce qui les a poussés à venir. Donc, souvent, quand même... Des choses pas forcément très marrantes.
Certainement.
Donc c'est aussi cet endroit-là, la banlieue, elle accueille Et c'est là qu'on va se reconstruire et vivre. Et on avait envie de montrer tout ça. Et en effet, avec toutes ces photos, alors il y a des photos des années 80, c'est chouette parce qu'on les voit, comment elles sont habillées, les filles. donc on voit toutes ces choses, ça nous rappelle nos sœurs, nos copines, nos potes. C'est très chouette de voir tous ces visages. On était vraiment... à fond, pour cette incarnation-là, de pas montrer des choses vides. Non, au contraire, de vraiment... Et en tout cas, le retour qu'on a pu avoir, moi, autour de moi, c'est que les banlieusards sont contents de se voir enfin dans un musée. Ça fait du bien, Et qu'ils sont un peu à la maison, à banlieue chérie. Et ça, c'est trop génial. Parce que ils vont... il y a tout. Ah oui, ça. Bon, c'est à chaque fois plein de petites choses. En effet, c'est les photos, l'appartement. C'est comme chez ma grand-mère. Il y a tout cette chose très intime, qui se tisse avec les visiteurs et qui, je pense, est assez juste.
Et c'est une question qui est posée, comment se représenter soi-même ? C'est une question qui est posée, là.
Ouais.
On a diverses réponses, bien sûr. Bien sûr, vous avez évoqué l'ETA, donc l'immigration. On est dans un moment, aujourd'hui en France, où... qu'on le veuille ou non, on constate que la parole raciste se libère. Les immigrés et les migrants sont enfermés dans ce vocable-là et semblent être porteurs de tous les mots aujourd'hui en France. Quand on décide, même si j'imagine que le projet a été donc construit un peu avant, quand on propose ce projet-là à grande échelle dans un musée donc en plein Paris, quelles questions se posent par rapport à cette actualité-là, à cette conjoncture ?
Je ne sais pas si on l'a posé comme ça de manière aussi franche. En tout cas, il y avait, comme dit Constance Rivière, parce que les gens au début ont dit « Mais quoi ? Mais pourquoi ? Est-ce que vous faites une expo banlieue ?» au musée de l'immigration. Et Constance, elle dit, mais moi, je me demande comment ça se fait que ça n'a pas été fait depuis si longtemps, en fait. Donc, au début, on n'a pas eu un accueil formidable. C'était difficile, un peu, au début, sur la mise en place, de comprendre pourquoi est-ce qu'on allait travailler là-dessus. On a mis 2 ans hein, à monter l'expo, à fabriquer la liste d'œuvres, l'histoire. Je sais pas si on s'est posé la question comme ça par rapport au racisme ambiant en France, mais c'est en creux de toute manière. Des expos comme ça, ça ne peut que faire du bien, moi je pense. C'est-à-dire que ça ne peut que alors, c'est une façon douce de le faire, mais c'est quand même une résistance de...
Oui.
Voilà, une résistance qui est pacifique, mais qui à mon avis, en tout cas, il y avait répond à une attente, puisque on voit que ben on a beaucoup de visiteurs, beaucoup de jeunes, et je pense que qu'en fait il y a il y avait une attente en fait. Je pense que Constance Rivière avait à taper juste en fait dans ce besoin en fait pour tout un tas de gens en banlieue, immigrés ou non d'ailleurs, mais qui attendaient un peu, je pense, ça d'une institution en fait. Et nous, on l'a surtout travaillé sur cette idée donc, qui est dans le titre hein, de banlieue chérie, donc de prendre un axe pacifié, pacifique. C'est aussi une expo qui a été faite par que des femmes. Donc peut-être que voilà, on a porté une voix douce et pacifique là-dessus. Et plutôt construite dans la coopération, la collégialité, déjà vraiment dans sa fabrication et aussi, je pense, une sincérité. C'est-à-dire que au début, c'est tellement vaste quand on commence à se dire, alors on va travailler sur la banlieue, c'est immense, on peut partir dans tous les sens. À chaque fois qu'on tire un truc, il y a une expo entière qu'on pourrait faire. Donc c'était un peu, voilà. Et puis finalement, oui, on s'est recentré en fait sur ce qu'on connaissait, ce qu'on maîtrisait. C'est-à-dire, ben, c'est vrai que ça parle beaucoup de l'Île-de-France, même si on a des échappés à Bordeaux, à Lyon.
Oui.
À Marseille, mais ça parle beaucoup de l'Île-de-France, mais parce qu'au moins on était sûr de notre sincérité là-dedans, c'est-à-dire qu'on était capable de sourcer les personnes, on les connaît, donc du coup il y a un aspect comme ça d'exposer les siens quoi dans cette expo, mais qui je pense en même temps lui donne sa sincérité quoi, et ça je pense que c'était important en tout cas pour nous. Ouais.
À l'ETR, vous laissez la place à un artiste qui s'appelle donc Mohamed Bourouissa, qui est photographe, artiste visuel et praticien. Donc, l'œuvre qu'il nous présente donc, est issue d'une série qui s'appelle Périphérique, qui date de 2006. Et donc, c'est la mise en scène photographiée et réalisée donc, à Clichy-sous-Bois en décembre 2005, c'est-à-dire quelques temps après les révoltes qui ont frappé la ville à cause de la mort de Ziad Benah et Bouna Traoré. C'est un peu donc, il s'inspire beaucoup, on comprend, de la liberté guidant le peuple de la Croix.
Absolument.
Donc là, c'est une actualité donc, dure, qui date d'une vingtaine d'années, traitée sous une forme photographique. Pourquoi vous avez trouvé ça intéressant d'en reparler sous cette forme-là?
Alors, on n'en reparle pas que sous cette forme-là, parce que la photo, elle est en face de l'installation.
Oui, mais c'est dans l'ensemble plus global, c'est
ouais,
ça,
avec
tout à fait.
Justement, en plus, une des banderoles...
Qui est très politisée.
Une banderole politisée sur, justement, le collectif Adama.
Il y a un t-shirt aussi.
Ouais, il y a un t-shirt. Enfin bon, il y a plein d'histoires. Donc, cette photo, elle est mise aussi en relation avec une partie de l'expo qu'on a appelée les luttes en héritage. Parce qu'on avait aussi envie de parler de ça, de ces violences à répétition, puisque, bon, Ziad et Bouna sont un déclencheur en 2005, mais on va continuer à avoir des violences incroyables régulièrement, tous les quelques années, avec des morts à chaque fois, des jeunes qui se retrouvent, voilà. Et donc ça, on avait pas envie d'occulter ça, en fait, parce que c'est pareil, ça fait partie justement de cette histoire, de ces territoires, de cette violence qui se permet dans ces endroits. Mmh. Pourquoi est-ce qu'on se permet d'être aussi violent
dans ces endroits-là?
Ouais. Mmh. Et donc, on avait envie d'en parler. Et c'est vrai que le choix de cette photo, mais qui, encore une fois, vient avec tout un ensemble d'affiches, de choses qui sont en dialogue avec des éléments. Qui est en dialogue avec plein d'autres objets et qui à l'entrée de l'espace presse, justement. Et que voilà, donc elle prend aussi sa place, toujours en regard avec tout son petit environnement. Mais oui, parce que cette photo, bah oui, elle est emblématique, elle est forte. C'est une photo qui est assez émouvante, en fait. Voilà.
On va écouter un autre morceau tiré de cette playlist de l'exposition à l'ETA. Donc on écoute, le titre c'est Bande organisée, donc c'est un collectif de COS, Somames, Elam, Jules et SCH, Bande organisée.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Oui, m'a gâté RS4 Grinardo, bien sûr qu'ils m'ont raté. Soleil dans la bulle, sur le Prado, Shifter Pro. Contresens, ma chérie, t'as contresens. Putain, où t'étais quand je mettais des 5 euros d'essence? Je veux nous faire la guerre, par un Dieu CB. Ça prend ton OG, ça prend ta gadji, ça prend ta CB. Le téléphone bip, que tu prends la KO. C'est Marseille, bébé, ça m'est rassé dédé. Wesh, alors ma race, tranquille ou quoi? Crème dans la chop. Je fais 0 à 100, 2 secondes 3. Guitarisé, oh, ACDC, oh. On se croit, c'est sûr, t'es tétanisé.
J'ai passé la blague à Chiquita, 2 mois après, je l'ai déjà quitté. T'es un petit bâtard, je suis un abat, je suis un déjà quitté. Je suis le capitaine, je vais les décapiter. C'est pas la capitale, c'est Marseille, bébé. 1-3 au G-Sport, je passe la douane, les rapports. Nique ta mère sur la canne pierre, nique tes morts sur le vieux port. Miamol, c'est les quartiers sud, c'est les quartiers nord. Nique ta mère sur la canne pierre, nique tes morts sur le vieux port.
J'suis la zone sans casse sur un scooter quitté. Oublie là, c'est une poutale t'as quitté. J'suis ailleurs, c'est de la moula que j'ai effrité. Depuis tout à l'heure que ça me nique mon briquet. Rafale, flow, bazooka, oh. J'ai des potes qui se déplacent au chaos. La moto elle fait brem 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 brem. Toujours la demande à Jiko. J'suis dans le game en claquette sur bête. J'fuck les folles qui parlent de moi sur net. J'suis sous potion, la sture de 3 sur le pet. Au fait, on grimpe, envoie les zéros sur le check. On toquait pas ça. À la cabeza. Pour les mappés ça, on toquait pas ça, à la cabeza, gratata, pour les mappés ça. Plus besoin d'aller chez Lacoste, depuis que je fais d'oreille platine. Et sur Twitter je vois leur post, nique leur mère ce qui parle mal de la team.
En bande organisée, personne peut nous canaliser. Dans la zone ça fume la fusée, pisté par les banalisés.
Hasta luego faisant.
Depuis l'époque de Cara, la technique, le flow de malade. Artistiquement, on se balade. T-Max, Cascara, recherché à Keshmara. Je m'envoie une frappe imparable, je fais couler son mascara. Le J, c'est le S, genre le RS. Une liasse épaisse, elle est belle et qu'un APS. Le J, c'est le S, genre le RS. Une liasse épaisse, elle est belle et qu'un APS.
Yo, cesse ton baratin, t'es qu'un fils de baratin. J'commence le rap avec cet étroit, à la rivière j'ai touché la quinte. Yo, j'vise l'or, le platine, à la base c'était les assises. J'suis un peu de Zampa, un peu de Zizou, j'offre un Ricard à Poutine. Les trafiquants dans le bâtiment, cavale comme Usain Bolt. Je connais le maniement de mon département. Le soir, pour te froid, c'est ta gode et ça fait Zumba. Caféo, caféo, carnaval, j'suis dans le 4-4 teinté. Pisté par la banale et ça fait Zumba. Caféo, caféo, carnaval, j'suis dans le 4-4. Par la banale.
En bande organisée, personne peut nous canaliser. Dans la zone, ça fume la fusée, pissé par les banalisés.
Hasta luego, faisant. Hasta luego, faisant. Hasta luego. Hasta luego.
Égal, illégal, alpha, oméga. On fait coup d'état, balle dans la tête, c'est la quinta. Poursuite, y'a les bleus.
trouve des cadavres. Marseille, hala, plus d'âme, les petits pas salades. Mili, je vais mili comme l'OVNI. C'est fille à tout âge, c'est fini.
Ya, yeah, on ira la mi-ennemi. Ya, yeah, on ira l'ennemi à mi. Ya, yeah, j'ai les poches pleines, tu me suis. J'ai fait le calcul depuis le calcul et lui. Ya, yeah, comportement dans la zone. Ya, yeah, comporte avec les hommes. Ya, yeah, garde à pêche, moi j'ai la forme. Forme, t'es mini qu'on te déforme. Car c'est trop vrai, t'as le regard et le fond mauvais. Quand je galère, toi t'es refait. Oli, t'es mauvais, ta gadji, on la connaît. Au parloir, elle a tourné. Cogné par des prisonniers. Tu dois des sous.
On a du mal à arrêter ce morceau de bande organisée qui se trouve donc à l'ETA sur la liste, sur la playlist que vous avez donc conçue vous-même, donc l'exposition Banlieue Chérie, c'est donc jusqu'au 17 août au Musée de l'Histoire de l'Immigration. Vous êtes donc l'une des commissaires de cette exposition. Alors, il y a aussi cette idée dans l'exposition à l'ETA donc, de s'approprier la ville. Alors, en même temps, on s'approche un peu de vos créations. On va parler un petit peu. Comment justement, à partir de la banlieue, on s'approprie la ville.
de plein de façons. Alors, c'est vrai que là, dans l'expo, on parle un peu de graffiti justement et de l'urbex. Puisque bon, moi, je viens du milieu du graffiti et j'ai fait pas mal d'art urbain, j'en fais encore, évidemment. Et y a un truc dans le graffiti qui est très fort, pour moi, c'est la marche. Parce que les gens qui font du graffiti, c'est les gens qui font marcher. Et qui marchent et qui s'approprient l'espace. Et moi, d'ailleurs, tout mon travail que je fais avec des enfants, etc., je l'axe là-dessus, ce plaisir qu'on a à traverser les espaces à pied, en fait, et la place du marcheur en ville. Et je pense que les gens qui pratiquent le graffiti sont, en fait, les héros de la marche en ville et en banlieue. Puisqu'en effet, ils vont comme ça traverser des espaces, découvrir des espaces et les investir, comme par exemple des usines, les longs des autoroutes, dans les dépôts de trains, sur les trains. Enfin, voilà, il y a tout un réseau comme ça de lieux qui sont utilisés par les gens qui font du graffiti et qui sont une réappropriation comme ça des espaces. Et donc dans l'expo, on parle un peu de ça, on parle de l'urbex au travers d'une œuvre qui s'appelle « Mausolée » de Lek et Sowat, qui est un film qu'ils ont fait dans un supermarché du 93 qui était abandonné et dans lequel ils ont investi, invité des potes et ils ont fait comme ça un film super, super je trouve, puissant en fait et collectif où en fait ils vont repeindre l'intérieur de ce lieu. Et qui encore aujourd'hui, pour les gens qui font l'urbex, donc l'urbex c'est la pratique de découvrir des lieux abandonnés. Ils peuvent encore aller le visiter, c'est comme un musée caché dans le 93.
Et donc quand vous parlez de la marche à l'ETA, vous dites que vous avez marché, que vous avez dû beaucoup marcher pour faire cet art-là.
Ouais.
Ça, c'est quelque chose que vous avez fait depuis très tôt dans votre vie.
Pas très tôt. Au début, je faisais de la photo et vers mes 20 ans, moi, j'ai commencé à peindre. Hein, ouais. Et c'est vrai que c'était une façon en fait de survivre en fait dans ces milieux urbains, de pouvoir les découvrir, de pouvoir les investir aussi en tant que fille, parce que quand on est une femme et qu'on a besoin d'être dehors, parce que moi j'aime être dehors, c'est compliqué. Donc si il faut toujours avoir une bonne excuse, la peinture c'est pas mal. Et voilà, donc c'est cette urbanité-là. Et en plus, donc, en banlieue, il y a aussi tout le rapport au train. Je pense à Schlaglab aussi qu'on expose là. Je ne sais pas si vous... ils ont fait un travail sur comment on appelle ça, une tapisserie, comme une tapisserie du Moyen-Âge, mais avec un RER. Je ne sais pas si vous dites quelque chose avec écrit banlieusard.
Comme c'est ça. D'ailleurs, le transport
jour,
aussi.
Pour toujours. Oui, oui.
Le transport.
Voilà, et avec ils font des vitraux avec des façades de RER. Il y a, voilà, et donc toute cette, tout ce rapport comme ça à l'urbain et à ces lieux qui est réinvesti par là. Voilà, je pense aussi à Benjamin Lading et à Quentin Chaudat qui font tout un travail de peinture, de graffiti du futur un peu, où ils abandonnent complètement la lettre et où ils vont faire des choses beaucoup plus abstraites, tout au chrome. Tout ce travail en fait artistique qui est laissé dans les rues, dans les villes et qui est pratiqué en banlieue beaucoup parce que la banlieue permet l'expérimentation. Elle permet plein de choses qu'on peut pas se permettre par exemple en plein Paris. Il y a pas à Paris, c'est voilà, il y a moins de place, il y a moins de temps, il y a moins de voilà, en banlieue, on peut voilà se permettre d'être plus expérimental. Voilà, donc il y a une partie qui montre un peu tout ça. Le travail de Guillaume Mativet aussi sur les ces espèces de plastique vert qui sont tendus partout là en ce moment dans les zones pavillonnaires pour faire croire que c'est de la végétation et qui est encore une fois réinvesti par le graffiti pour voilà un peu comme voilà, le graffiti qui dit, ben non, on voit bien que c'est pas de la végétation. Donc, ça reprend sa forme de mur parce qu'il y a du graffiti dessus. Et Guillaume Mativet en fait des paysages urbains très poétiques que j'adore.
Et vous-même, à l'ETR, vous avez donc le projet L'archéologie du futur.
Qu'est-ce que c'est
exactement?
Ben, donc moi, je propose une pièce, pareil, assez expérimentale, puisqu'en effet, la dernière partie de l'expo, c'était un peu ça, c'était l'art de se représenter, de se réinventer, et aussi de parler de ses fiertés aussi, quoi. Et donc, je parle de la ville de Corbeil-Essonnes, dans laquelle je vis, qui a une histoire, en fait, extrêmement longue, et qui abrite des sites archéologiques qui datent de Néandertal jusqu'à voilà, Néandertal, Magdalénien. Enfin, donc, on a une implantation humaine de 300 000 ans, en fait. Et donc, moi, j'avais envie de travailler là-dessus parce que c'était un petit peu, de manière un peu insolente, puisque déjà, notre expo ne parle que des 200 dernières années.
Ce qui est déjà pas mal.
Déjà pas mal. Tout à fait. Mais j'avais envie de jouer plus gros et de démontrer que la banlieue était attractive et merveilleuse depuis 300 000 ans. Donc, je suis partie de ce principe-là. Et donc, j'ai créé une œuvre interactive, comme ça, où on ouvre des tiroirs et on suit le journal intime d'un personnage fictif qui s'appelle la Corbeilloise et qui est un peu comme Orlando de Virginia Woolf. C'est-à-dire qu'elle va traverser le temps, elle va changer de sexe, et elle va faire plein de boulots, plein de trucs différents. C'est comme si on avait retrouvé son journal intime tout écrit dans une écriture cryptique en étoiles. Et on l'a traduit. Et donc, on trouve tous ces objets et tout son journal intime traduit qui raconte toute sa vie pendant 300 000 ans. Et donc, à chaque fois, c'est basé sur des choses réelles, en fait. Donc, des vraies études archéologiques, des vrais faits historiques de la ville de Corbeil. Et donc, je me suis amusée à en faire un journal écrit donc de manière très anachronique, c'est-à-dire c'est écrit comme aujourd'hui, comme si c'était une jeune d'aujourd'hui un peu, donc elle voilà. Et donc c'est des blagues parce que voilà, j'avais aussi envie de finir un peu avec des blagues parce qu'on est toujours très sérieux dans ces expos. Donc et donc voilà, donc j'ai travaillé sur de l'archive fiction parce que je pense que ça permet de retransmettre des histoires aux gens et aussi aux habitants, en fait. Et qu'en fait, c'est de toujours... moi, j'ai la sensation que les médias, donc voilà, la banlieue a une histoire très courte. Elle est même... voilà, si déjà on arrive à remonter à 20 ans ou alors aux grands ensembles, on est déjà au max. Alors qu'en fait, il y a des histoires aussi longues qu'ailleurs, et qu'il y avait des rois, qu'il y avait des personnages géniaux, que c'est pas voilà, que le centre n'a pas le monopole des belles histoires. Et donc là, je travaille là-dessus et en plus là, j'ouvre l'expo Rebond de Banlieue Chérie parce que on a fait plusieurs expos Rebond. Il y en a une à La Courneuve et une à Corbeil-Essonnes, une à Nancy. Qui sont donc en partenariat avec le MNHI, avec le musée de l'histoire de l'immigration, pour justement faire des échanges entre la banlieue et le musée, donc en recreusant des parties de l'expo, quoi. Et donc là, on ouvre mardi, vernissage à 19h à Corbeil-Essonnes, à la galerie municipale des archives de la Corbeilloise. Et là, du coup, ce sont les vraies archives de la ville, avec les vrais objets archéologiques et les vrais...
Donc ça, c'est une mise en dialogue de l'exposition avec d'autres espaces, d'autres formes de création. Ouais. Et ça se déclinera aussi dans d'autres villes.
C'est les rebonds, ça, on peut le retrouver sur le site de l'expo. Ouais.
Tout à fait. Ouais. Allez, Théa, merci beaucoup
de
passer ce moment avec nous. Alors, l'exposition, je rappelle, Banlieue chérie, c'est jusqu'au 17 août au Musée de l'Histoire de l'Immigration, Palais de la Porte Dorée, Paris 12e. Le temps de remercier nos amis auditeurs et auditrices qui nous ont écoutés, je l'espère, ce soir en grand nombre. À la réalisation technique ce soir, Armand Gury et René, merci beaucoup. Restez à l'écoute d'Aligre FM. Avant de retrouver Densol, Rie Vibes, on écoute un morceau encore, d'un morceau de Kazé, yes, qui fait partie de la playlist de l'exposition Banlieue Chérie à l'ETA. Donc c'est Quand les banlieusards sortent. Sur ce, on vous souhaite une bonne soirée. À samedi prochain. À bientôt.
Merci beaucoup. Merci.
Il sue, il tremble, il court à toutes jambes. Il prie même le ciel quand on se rassemble. De peur que ça flambe, il se cache et puis verrouille leurs portes. Lui, quand les banlieusards sortent. Ils voudraient qu'on reparte, qu'on les laisse seuls. Ils nous voient, ils s'écartent. Dès qu'on arrive, ils s'agitent vite, tous en fuyant vers leur appart. La nuit, quand les banlieusards sortent. Fermez vos portes et puis lumière éteinte. Priez les mains jointes, car les banlieusards sortent. Les rues sont désertes et la ville semble morte. Et toutes les sirènes d'alarme sonnent l'alerte. Les polices les plus expertes organisent des cellules de crise et se concertent, se conseillent chacune pour savoir comment on se comporte. La nuit quand les banlieusards sortent. Plus aucune vitrine ouverte, grands patrons et banquiers sont sous bonne escorte. Politiciens qui, redoutant dégâts et pertes, demandent à l'armée de venir prêter main forte. Et toutes les places sont recouvertes de haut-parleurs qui crachent et puis colportent. Le plan de sécurité est éviter que la panique ne l'emporte. La nuit quand les banlieusards sortent. Il sue, il tremble, il court à toutes jambes. Il prie même le ciel quand on se rassemble. De peur que ça flambe, il se cache et puis verrouille leurs portes. La nuit quand les banlieusards sortent. Ils voudraient qu'on reparte, qu'on les laisse seuls. Ils nous voient, ils s'écartent. Dès qu'on arrive, ils s'agitent vite, tous en fuyant vers leur appart. La nuit quand les banlieusards sortent. L'heure est grave quand on arrive. Des familles entières se réfugient à la cave. Amènent avec elles juste quoi survivre. Comme
vous écoutez Aligre FM 93.1.